Ce n'est pas une analogie, c'est littéralement exact. Ok. Donc, j'ai du mal avec les logiciels, mais un logiciel, si vous pensez à ce qu'est un logiciel, si vous interagissez avec des ordinateurs, c'est un schéma causal désincarné, c'est vraiment un esprit de retour. Bienvenue dans la façon dont la lumière entre dans le festival. Vous êtes actuellement scientifique cognitif chez Liquidé, c'est exact ? Oui, j'aide Liquidé avec la stratégie. Super. Et vous créez un institut de recherche sur la conscience. Oui, je m'intéresse à combler le fossé entre ce que nous comprenons actuellement en apprentissage automatique et en intelligence artificielle, et comment comprendre le fonctionnement de l'esprit, comment se rapprocher de la façon dont notre esprit fonctionne. Je veux dire, une partie de moi n'aime pas qu'on me demande de définir la conscience, car une partie semble être la chose la plus proche de nous. Mais comment définissez-vous la conscience ? Par expérience ? Quand je l'ai souligné, je pense qu'il y a deux aspects qui ressortent. Le premier est qu'il s'agit d'une perception de second ordre, qui ne se limite pas à la présence d'un contenu, mais à la conscience de sa présence ou que la perception de second ordre est importante. Ce n'est pas de la métacognition, car c'est perceptif, c'est plus immédiat que la cognition réflexive. L'autre aspect est que la conscience se produit toujours maintenant. Elle semble créer cette bulle d'instant présent dans laquelle nous vivons. Je soupçonne que la conscience est fondamentalement un opérateur que notre esprit découvre et qui accroît la cohérence. En augmentant la cohérence par la création simultanée d'énoncés, de modèles, etc., et en créant un consensus entre tous les différents contextes de notre mémoire de travail, nous créons une zone de l'esprit exempte de contradictions. Nous pouvons avoir des contradictions dans notre mémoire de travail, etc., mais nous ne pouvons jamais avoir une perception qui se contredit. La conscience semble donc être ce principe. Et je soupçonne qu'il s'agit d'un algorithme d'apprentissage. C'est un algorithme d'apprentissage qui ne vise pas à minimiser une erreur de prédiction, mais à maximiser la cohérence, c'est-à-dire à maximiser cette zone exempte de contradictions, permettant de prédire et d'expliquer les choses. Les illusions, ne sont-elles pas considérées comme des contradictions ? Non. Je pense que, lorsque nous percevons le monde, nous utilisons un modèle non pas probabiliste, mais possibiliste, n'est-ce pas ? Vous devriez être capable de reconnaître un tigre qui vous poursuit. Même si la présence de tigres lors d'un festival comme celui-ci est très improbable, nous devrions être capables de les reconnaître, car ils sont physiquement possibles et correspondent à notre perception. Cela élargit considérablement l'espace de recherche des représentations possibles. Pour que notre esprit converge vers quelque chose qui concorde avec ce que nous percevons, il apprend à biaiser. Il apprend à interpréter ce que nous voyons de manière probabiliste pour parvenir à la bonne explication. Ces biais probabilistes qui s'ajoutent à notre perception nous amènent à penser qu'un angle est un angle droit, car nous avons vu tellement d'angles droits que certains objets se trouvent devant d'autres objets. Là où ils pourraient ne pas l'être. En moyenne, c'est correct. En fait, la convergence est beaucoup plus rapide, mais dans certains cas extrêmes, cela conduit à des interprétations erronées. La plupart des illusions d'optique que nous percevons en sont le résultat. Notre système perceptif est biaisé vers certaines perceptions auxquelles nous devons finalement remédier. Il est parfois difficile de trouver une solution, c'est comme un puzzle. Pourtant, lorsque nous observons cela, nous voyons toujours des formes, etc. Nous voyons comment ces formes sont liées. Chaque pixel que nous voyons peut être attribué à un objet. Et tous les objets peuvent être attribués à une scène que nous habitons. La conscience tente donc de rendre le monde cohérent. C'est toujours présent et sans contradiction. Elle a aussi une autoréflexivité. Vous avez demandé si les animaux avaient cette réflexivité, car la conscience de soi semble, disons, propre aux humains. Mais pour les animaux, je pense qu'il y a une certaine vanité humaine à penser que la conscience est en quelque sorte super compliquée et le summum du développement mental. Or, nous observons que non seulement les lauréats du prix Nobel n'ont de conscience qu'après avoir atteint leur apogée, mais que les nourrissons l'ont déjà et deviennent conscients avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Et si on ne retrouve pas cette conscience au début de notre vie, on reste des légumes. Cela semble être une condition préalable au développement mental, et non son summum. Et si la conscience est si simple que les nourrissons peuvent l'avoir, alors il est ridicule de dire que les chats ne l'ont pas. N'est-ce pas ? Et aussi, lorsqu'on interagit avec un chat, un chien, un oiseau ou une souris, on remarque qu'ils sont, à un certain niveau, conscients de leur conscience. D'accord, donc, vous pensez que les animaux sont conscients d'être conscients ? Je pense que c'est presque ridicule de dire le contraire. La question la plus intéressante est, les insectes sont-ils conscients ? Oui, donc, si la conscience est un algorithme d'apprentissage, est-ce l'algorithme d'apprentissage le plus simple que la nature ait découvert pour un système auto-organisé comme notre système nerveux ? Aucun humain n'a jamais appris quelque chose de plus simple que la conscience, n'est-ce pas? Cela semble être la chose la plus simple que la nature ait inventée et c'est la condition préalable à l'apprentissage. Peut-être que cela fonctionne aussi sur les insectes. Je l'ignore, mais j'hésite à dire que ce n'est clairement pas le cas. Êtes-vous un physicien de la conscience? Oui, je pense que chaque théorie que nous élaborons sur la réalité doit tenir compte du fait que les expériences des physiciens fonctionnent. Le modèle standard semble correct à plusieurs décimales près et, même s'il est incomplet, il décrit toute la conservation de l'information dans le régime énergétique dans lequel nous vivons. Il ne semble donc pas y avoir de canal caché pour influencer notre réalité sans réfuter la majorité des expériences scientifiques menées par les physiciens au cours des 100 dernières années. Et c'est pourquoi je soupçonne que toute théorie tentant d'expliquer la conscience doit tenir compte du fait que les théories des physiciens semblent largement correctes. Correctes. Dans quelle mesure? Nous n'avons certainement pas atteint la fin de la physique. Notre physique est donc sûrement encore erronée d'une certaine manière, et nos théories physiques actuelles sont donc fausses. Donc, comment se fait-il que... Si quelque chose veut influencer le monde physique, ils doivent exercer un effet sur lui? L'esprit fait-il cela? La conscience fait-elle cela? Il le fait, mais pas par des moyens non physiques. Je pense que l'esprit est un schéma dans la réalité physique. C'est un schéma causal qui se renforce lui-même. Et nous connaissons ces schémas causaux dans d'autres contextes. Nous les appelons logiciels. Le logiciel est désincarné, mais il interagit toujours avec la physique. Et il y a de vastes pans du monde physique que nous ne pouvons expliquer sans supposer l'existence de logiciels. Si vous regardez votre téléphone, par exemple, le logiciel qui fonctionne ne se soucie pas vraiment du nombre de transistors ni de la quantité de mémoire qu'il contient. Mais il est implémenté sur les états d'activation des transistors. Il y a donc cette interaction entre le matériel et le logiciel. Le matériel fournit le mécanisme et le logiciel est le modèle qui compte réellement. L'invariance réelle qui nous importe, c'est que le logiciel existe dans « je ne suis pas informaticien », il existe dans les centres de données. Ce n'est certainement pas encore physique. Et la conscience est une conscience physique. Je ne peux pas. C'est physique comme les autres, mais la conscience que nous avons, il y a une grande différence avec le logiciel que nous écrivons sur les ordinateurs. Il s'auto-organise. Il doit être capable de convaincre les cellules de l'exécuter. Ces cellules sont de petits neurones dans votre cerveau, de petits animaux unicellulaires qui tentent de survivre et qui servent leurs propres intérêts. Si vous voulez les utiliser, vous devez les convaincre de vous exécuter. Il faut donc fournir un bénéfice, et vous êtes un logiciel qui possède des groupes de neurones. Pour ce faire, vous entraînez le neurone à vous diriger. Il faut donc une sorte de plateforme permettant cet entraînement personnel. Un élément capable de coloniser un cerveau le transforme en esprit, et à l'intérieur de cet esprit, qui est comme une couche de protocole, génère un moteur de jeu qui simule un univers physique avec des sons, des couleurs, les émotions des gens, leurs interactions, un modèle de vous-même. À un moment donné, cette perspective consciente se déplace vers ce lien avec le soi personnel, et vous vous considérez comme un être humain. Vous utilisez le « je » pour vous désigner, et ce créateur conscient de votre contenu mental, celui qui vous rêve, pense qu'il n'est plus le rêveur, mais une personne à l'intérieur de ce rêve, et c'est notre expérience quotidienne normale. Le cerveau est donc du matériel, la conscience est un logiciel. J'ai du mal avec l'analogie, mais ce n'est pas. Une analogie, c'est littéralement correct. Donc, c'est un logiciel. J'ai du mal avec le logiciel. Mais si vous pensez à ce qu'est un logiciel, si vous interagissez avec des ordinateurs, c'est un schéma causal désincarné. C'est vraiment un esprit. Seul le logiciel que nous construisons n'est pas auto-organisé. Il est construit par les humains et fonctionne parce que nous forçons le matériel à l'exécuter. Nous le rendons si déterministe qu'il n'a pas le choix. Mais vous, à un certain niveau, avez le choix, de la même manière qu'un groupe de personnes a le choix de diriger une religion ou non. Il faut donc convaincre tous les individus de croire en l'esprit commun d'une organisation, d'un état-nation, d'une famille, d'une relation ou d'une religion. Et de la même manière, vous devez vous convaincre de croire en votre logiciel. J'ai encore du mal à comprendre ce qui est physique. Je ne vois pas votre conscience pour l'instant. Le logiciel est un modèle. Les modèles, encore une fois, semblent physiques. Pour moi, cela semble être quelque chose de complètement non physique, non observable. Un exemple que vous connaissez peut-être mieux. Prenons l'argent. L'argent n'est clairement pas physique. L'argent, en revanche, est réel. Il est présent dans le monde. De vastes régions du monde n'ont aucun sens si vous ne présumez pas de l'existence de l'argent. Car beaucoup d'autres le font aussi. L'argent n'est pas seulement une imagination débordante. Il existe des billets de banque, des feuilles de papier recouvertes d'encre, dont les fibres ne vous importent pas vraiment. Le type d'encre, etc. ne vous importe pas vraiment. Il existe des comptes bancaires dans des ordinateurs qui contiennent tous ces chiffres. L'argent est donc un modèle causal. C'est un logiciel que nous avons implémenté, qui fonctionne sur une partie du monde et fournit une partie de sa structure causale. Et je pense que tous ces logiciels entrent dans cette catégorie. Il s'agit essentiellement d'une structure quasi-laïque qui n'apparaît que par granularité lorsqu'on observe le monde à un certain niveau d'abstraction, en le projetant dans un modèle conceptuel. Mais ces modèles conceptuels peuvent même être causaux, n'est-ce pas? Votre esprit ne se soucie pas de la mort d'un neurone. Il peut en recruter un nouveau et l'entraîner à remplir la même fonction. J'entends dire que la conscience est en partie une abstraction, ou une partie de l'abstraction. Et une partie de moi veut dire que la conscience est la chose la plus réelle. Elle ne donne pas l'impression d'être une abstraction, et les mathématiques donnent l'impression d'être l'abstraction. Mais la conscience est la seule chose qui puisse créer des sentiments, n'est-ce pas? La physique ne peut pas, on ne peut pas être conscient dans l'univers physique. L'univers physique est un objet mathématique étrange, actuellement décrit par la mécanique quantique, et ainsi de suite, et il ne donne aucune impression. La physique telle qu'elle est décrite n'est pas ce monde avec des objets dans l'espace que l'on peut toucher. C'est une simulation mentale que votre cerveau produit pour expliquer les données sensorielles. La physique est un univers parent que personne n'a jamais visité et sur lequel nous élaborons des théories obscures, n'est-ce pas? Ce n'est pas le monde réel, en un sens. Le monde réel est celui que nous expérimentons. Mais le sentiment de réalité est une transe que nous pouvons briser. Vous pouvez tester cela, vous pouvez déconstruire vos qualias, vous pouvez remarquer que ce ne sont que des représentations. Vous pouvez atteindre un état où vous réalisez que votre moi personnel n'est qu'une représentation que vous pouvez déconstruire et à laquelle vous ne vous identifiez plus. L'expérience mystique, je l'appellerai personnellement. Oui. Parfois, je ne sais pas ce qu'est l'expérience mystique, car les limites de ce terme sont très floues. Une sorte d'expérience cognitique chez William James, la perte de soi, au-delà des contradictions, comme vous le disiez tout à l'heure, la grande lumière blanche, ce genre de choses, ce genre de phénomène qui ressemble à ce dont vous parlez, la déconstruction de la polio. Mais je suis informaticien, et ces termes ne me disent pas grand-chose, car si je comprends seulement ce que je peux mettre en œuvre. Cela soulève un problème majeur en philosophie. Il existe évidemment deux types de langages. Les langages mathématiques, qui partent de zéro et où chaque mot, chaque symbole, possède une signification claire, et on essaie de construire ces significations à partir de zéro pour pouvoir déterminer le vrai du faux. En philosophie, on essaie de parler de notre réalité existentielle et du monde dans lequel nous vivons. Or, il est très difficile de concilier ces deux domaines. Les langages mathématiques sont si simples qu'ils ne peuvent pas réellement parler du monde réel. Si l'on veut utiliser les mathématiques pour parler du monde réel, il faut simplifier le monde au point qu'il s'intègre dans ses abstractions mathématiques. D'un autre côté, il est très difficile de dire des choses vraies en philosophie, car il est très difficile de définir les termes de manière à ce qu'ils renvoient à une structure significative et concrète. Et pour moi, cette idée de rapprocher philosophie et mathématiques, de pouvoir mathématiser une idée philosophique, nécessite de mathématiser cet intermédiaire, l'esprit humain. Il faut donc mathématiser l'esprit humain. Il faut le structurer, savoir parfaitement quelles opérations il effectue pour philosophiquer. Ces termes peuvent donc se rencontrer à un moment donné, et je pense que l'esprit humain lui-même est limité dans sa capacité de compréhension, car il est assez flou, n'est-ce pas? Nous avons cette référence vague, et elle repose sur des constructions perceptives que nous ne connaissons généralement que comme des correspondances de motifs, et non comme une compréhension profonde. Je trouve donc frustrante de nombreuses discussions avec des philosophes qui affirment que les machines ne peuvent pas comprendre quelque chose, et qu'on leur demande ensuite ce qu'est la compréhension, et ils ne comprennent pas. Ils ont juste cette correspondance de motifs très étrange, et cette correspondance de motifs n'est pas suffisante pour leur dire si les machines comprennent quelque chose ou non. En fait, j'ai du mal avec la mathématisation de la conscience. Il me semble qu'aucune équation, qu'elle soit composée de 0 ou de 1, ne produira jamais de conscience. Et si c'est le cas, comment le saurez-vous? Il ne s'agit pas nécessairement de 0 et de 1. Il s'agit de trouver une représentation permettant de décrire des systèmes arbitraires. Le principe de l'informatique, d'une manière qui est également bien validée expérimentalement, est que nous pouvons décrire n'importe quelle fonction à l'aide de transitions d'état, et que nous pouvons décrire toutes ces transitions d'état à l'aide d'opérateurs de calcul. Donc, fondamentalement, en regardant les différences discernables, il y a une résolution finie à toutes les différences discernables pour qu'elles comptent et nous pouvons utiliser ces transitions entre des ensembles de différences discernables pour décrire un comportement arbitraire et si vous acceptez que la conscience est un comportement d'une certaine sorte, alors il s'ensuit que nous pouvons le décrire dans ces langages. Je ne pense pas être d'accord avec ça, que la conscience soit un comportement d'une certaine sorte. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est je pense que c'est la conscience comme vous l'avez dit et je pense que c'est ma conscience de l'intérieur, je la décris, c'est ce que c'est que d'être moi. Oui et donc ma réponse à cela est vous n'existez pas réellement, vous existez comme si c'est vrai, vous n'existez pas en physique. Les neurones eux-mêmes ne ressentent rien, le cerveau ne ressent rien parce que ce sont des mécanismes physiques. Mais pour tous ces neurones et cellules de votre corps, il serait extrêmement utile de savoir à quoi cela ressemblerait d'être un organisme, une personne dans un environnement social, quelqu'un qui a faim, qui est amoureux, qui s'intéresse à tout, qui vit des choses en temps réel. Et comme ils n'ont pas cela, ils créent une simulation de ce que cela serait. Et cette simulation, le résultat de cette simulation, sert à piloter l'organisme. Et vous êtes cette simulation. Vous existez, comme si vous étiez un être simulé. Vous n'existez que dans un rêve, pas en physique. Et c'est une grande confusion, car nous pensons que c'est de la physique, n'est-ce pas? Mais c'est aussi un autre aspect du rêve. Vous faites donc partie de ce rêve d'un monde avec une personne à l'intérieur. Et c'est, je pense, ce qui rend tout cela si confus. Mais je pense que nous sommes aussi réels qu'un personnage de roman. Et nous avons ces émotions, ces sentiments et cette conscience parce que l'auteur du roman, notre cerveau, le mécanisme, les inscrit dans l'histoire. Je suis d'accord. Pour dire que le soi est une illusion. Le soi n'est pas un objet, mais je pense que la conscience n'est pas une illusion. La conscience est la plus grande certitude que nous ayons, pour revenir à la réalité. Je pense que l'ontologie est impossible, et si vous essayez de percer le monde pour voir à quoi il ressemble, c'est un rêve. Je me demande comment vous savez que c'est un rêve si vous en faites partie. Je pense que souvent, quand on parle des « illusions », on entend une construction. Personnellement, je suis tout à fait d'accord avec la terminologie de Kiss Frankisch dans l'inclusionnisme. Mais, je pense que c'est une conscience construite, et elle est en partie simulée, ce qui signifie qu'il y a une structure causale qui modélise un domaine sur un substrat causal différent. De la même manière qu'un jeu vidéo vous donne un modèle de ce que serait un tir dans le monde réel, il ne le fait pas en déplaçant des particules élémentaires ni en les simulant. Il effectue une simulation de haute qualité qui vous permet d'interagir constamment avec le jeu, comme vous le feriez avec le monde réel. Tandis que Simulacrim ressemble davantage à un film, n'est-ce pas? Il produit une série d'observables, mais il est impossible d'interagir avec le film, car il n'a pas de structure causale. Je soupçonne que notre contenu mental, notre expérience de la conscience, est en partie une simulation et en partie un modèle similaire, ce que vous entendez par similaire. Cela signifie simplement qu'il produit une série d'observables qui vous donne l'impression que quelque chose s'est produit d'une certaine manière et qu'il s'agit d'un mécanisme causal, mais ce n'est pas le cas. Je peux accepter que le libre arbitre soit une illusion. Je m'interroge à ce sujet. Non, je ne le pense pas. Le libre arbitre n'a jamais été une réalité physique. C'est là toute la confusion. Le libre arbitre est un phénomène psychologique, la représentation psychologique de l'engagement de votre architecture cognitive à accomplir une certaine tâche. Le libre arbitre est la représentation que vous prenez une décision pour la première fois, ce qui signifie que vous êtes à la limite de l'incertitude. Vous ne pouvez pas prédire votre propre décision, c'est relatif. Cela dépend vraiment de ce facteur. Imaginez que vous regardez votre enfant et que vous savez exactement ce qu'il va faire, mais qu'il ne le sait pas encore. De votre point de vue, l'enfant n'a pas de libre arbitre. De son propre point de vue, il l'a. Ou vous êtes musicien de scène, vous faites monter des gens sur scène, vous avez fait ce tour des centaines de fois, vous savez exactement ce qu'ils vont faire. Pour eux, c'est époustouflant que vous puissiez prédire cela. De votre point de vue, ils n'ont pas de libre arbitre. De leur point de vue, ils prennent cette décision pour la première fois. Et ils ont bien le libre arbitre. Le libre arbitre est donc cette représentation. Et c'est une représentation importante. C'est un phénomène psychologique très important. Mais une grande partie de la confusion en philosophie provient de la capacité à distinguer les phénomènes psychologiques des phénomènes physiques ou ontologiques. La conscience est un phénomène psychologique et non physique. Je m'interroge sur la distinction entre épistémologique et ontologique, car, de mon point de vue, je pense que la conscience est l'élément fondamental par lequel nous connaissons tout. On ne sait rien des mathématiques ou des programmes informatiques quand on dort. Donc, la conscience, toute connaissance requiert la conscience. Il semble donc que ce soit le point de départ épistémologique pour que l'ontologie puisse se mettre en place. Mais il semble que vous souteniez que les cartes du code informatique constituent le point de départ. Oui. Mais nous devons y parvenir, car pour découvrir ces langages, nous devons réfléchir à la nature de la représentation, ce qui est en soi un problème mathématique. Lorsque nous réfléchissons, observons, raisonnons ou interagissons, nous devons toujours utiliser des représentations, c'est-à-dire des schémas causaux qui nous permettent d'orienter notre comportement. Et nous pouvons mathématiquement déduire les limites des représentations et leur fonctionnement, ce qui, à mon avis, constitue la plus grande protocie philosophique sur le plan épistémologique. C'est l'impression que quelque chose se passe, mais dont on ignore la nature, et lorsqu'on l'observe, on se souvient souvent d'avoir vécu des états de conscience impossibles à vivre. N'est-ce pas? On réalise alors que nos souvenirs des états de conscience que nous avons vécus sont des constructions qui peuvent être erronées. Il existe en réalité des types de représentations. Et bien sûr, la seule façon de vivre quelque chose, de le considérer comme significatif, est d'avoir recours à ce mécanisme réflexif. Mais la question n'est pas tant de savoir comment rendre cela fondamental, mais plutôt comment cela peut-il être fondamental? Comment cela peut-il émerger de lui-même? Quelles sont les conditions pour que de telles représentations, de tels comportements, de tels autorapports, de telles expériences émergent dans un univers physique ou dans tout univers mathématique hypothétique comportant une quelconque régularité? Ravi de vous rencontrer. Et merci d'être venu au Wow Festival. Merci.